J'aimerais parler sur Jacob vole la bénédiction à Ésaü dans Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Et il répondit « Me voici !» Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, et va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mais voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Suite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'il se trouvait à la maison, et elle les mit à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de peau, des chevreaux, et son cou, qui était sans poil, et plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Amen. Il y a des moments dans la vie où les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait. Et la tentation humaine, c'est de faire avancer les choses pour que les choses avancent dans le sens qu'on aimerait. Rebecca, ici, ne pouvait pas accomplir plus vite le plan de Dieu, mais elle a voulu faire passer son fils Jacob avant Ésaü. Elle avait reçu une promesse, elle ne voyait rien arriver, donc la promesse était que son fils cadet, c'est-à-dire Jacob, hériterait la bénédiction. Non seulement elle ne voit rien, mais ce qu'elle entend, c'est tout le contraire, puisque le père a dit « Je vais bénir Ésaü ». Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Comme parfois nous faisons aussi, elle décide de prendre les choses en main pour permettre que le plan de Dieu s'accomplisse. Et elle pense que le plan de Dieu va s'accomplir à travers elle. Et donc, elle va mettre un stratagème en place qui est une sorte d'immense tromperie, mais qui va avoir des conséquences tragiques, à la fois pour sa propre vie, mais pour la vie de Jacob et Ésaü. Le premier point, c'est au verset 4. On voit une désobéissance, la désobéissance d'Isaac, quand même. Verset 4 dit ceci. « Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. » Donc, il parle ici à Ésaü. « Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Donc, il annonce bien à Ésaü qu'il va le bénir. Alors, Isaac, ici, on sait d'après les calculs hein, qu'il est âgé de 137 ans. 137 ans, c'est un âge, c'est un bel âge. On n'est pas beaucoup arrivé à cet âge-là encore aujourd'hui. 137 ans, et il sent qu'il va bientôt mourir. Donc, il veut bénir Ésaü pour deux raisons. Première raison, Ésaü, nous découvrons que c'était l'enfant préféré de Isaac. Il aimait Isaac. Isaac aimait Ésaü. Donc, c'était son préféré. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que Ésaü, c'était le fils aîné. Et donc, il était de coutume que la bénédiction paternelle repose sur le fils aîné et non sur le cadet. Donc, ça fait quand même deux bonnes raisons pour bénir ici Ésaü plutôt que Jacob. Donc, il y avait ces deux raisons tout à fait logiques, on peut dire. C'était normal de la part d'Isaac, mais il y avait un élément qu'on ne doit pas mettre de côté, c'est une promesse qui était sur la vie de Jacob et pas sur la vie d'Ésaü. Ça se trouve dans Genèse 25-23, et ça, c'est quelque chose qui va dominer, qui aurait dû dominer sur les deux éléments que Jacob, Isaac avait mis en avant par rapport à Ésaü. Il avait mis ces deux éléments, mais cet élément-là est plus important, c'est Genèse 25-23. Et l'Éternel lui dit, donc il parle ici à la femme d'Isaac, Rebecca, il lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Et donc il y a une prophétie qui concerne le plus petit, en réalité c'est le deuxième, c'est-à-dire Jacob, qui deviendra le plus grand. Il y a donc une promesse de Dieu maintenant sur la vie de Jacob. Donc, c'est comme si Isaac, finalement, n'accepte pas cette parole de Dieu et il dit, ben, moi je fais comme je veux. Donc il va tout faire pour bénir Ésaü malgré la parole de Dieu. C'est un petit peu comme si on connaît le plan de Dieu, mais on veut orienter d'une autre manière. Et ça, c'est un problème. Isaac n'en parle pas à sa femme. Il s'adresse directement à Ésaü et il lui dit, va, tu vas dans les champs, tu vas chercher du gibier, tu me fais le plat, et puis je te donnerai la bénédiction. Il savait très bien que la bénédiction, c'était pour Jacob. Alors, il fait exprès de ne pas en parler à sa femme parce qu'il sait très bien que s'il en parle à sa femme, il va y avoir un conflit, il va y avoir un désaccord. Mais si on prend des décisions sans se concerter, ça va être compliqué. Dans un couple, il faut se concerter, il faut s'entendre, il faut chercher la volonté de Dieu et partager. On voit ici un couple où chacun fonctionne de son côté. Donc, Isaac prend des décisions, il n'en parle pas à sa femme. Et puis, sa femme, elle va prendre des décisions, elle ne va pas en parler à son mari. Donc, on voit quand même un couple qui ne fonctionne pas bien. Manque de communication, ça va être une cause de conflit, de difficulté par la suite. Isaac a fait le choix. Il a fait le choix de désobéir à Dieu ici. Parce qu'on a toujours le choix d'obéir ou de désobéir. Il a fait le choix de désobéir à Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Il a fait l'inverse de la prière de Jésus. Il priait plutôt, « Seigneur, non pas ta volonté, mais que la mienne s'accomplisse. » Et c'est comme ça qu'il a mis Ésaü en premier. Résultat, en s'opposant à Dieu, parce qu'il est en opposition frontale, ben finalement, croyant bénir Ésaü, il va bénir Jacob. Il ne le sait pas encore, mais son plan ne va pas aboutir. Son plan n'est pas le bon. Alors, au verset 28, c'est ce qui va se passer. Il va prier pour... Alors lui, il croit qu'il prie pour Ésaü. Alors, il va lui donner la bénédiction, c'est versets 28 et 29. « Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que tes fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Alors, il y a toutes ces promesses maintenant qui sont sur la vie de Jacob, mais dans le cœur d'Isaac, lui, il croit qu'il est en train de bénir Ésaü. Un pays fertile, domination sur les peuples, position spirituelle. En fait, en voulant à tout prix bénir Ésaü, il a béni Jacob, c'est-à-dire en luttant contre Dieu, en voulant faire sa volonté, finalement, Dieu l'a orienté d'une autre manière. Mieux vaut faire la volonté de bon cœur parce que finalement, Isaac va quand même faire la volonté de Dieu, mais à contre-cœur. Et certains luttent pendant des mois, des années, ils font quand même la volonté de Dieu, mais finalement, par des circonstances, ils le font un peu à contre-cœur. Mais si Dieu a décidé de bénir Jacob, qu'est-ce qui pourra empêcher ? Il faut faire ce que Dieu demande. Et c'est ainsi dans l'histoire, on le voit pour les frères de Joseph, ils ont tout fait pour le tuer, mais la main de Dieu était là, il s'est retrouvé gouverneur d'Égypte. On le voit pour les Juifs qui ont voulu tuer Jésus, mais la main de Dieu était là, ils n'ont pas pu porter atteinte au Fils de Dieu. Et même le peuple a prononcé sa propre sentence quand Jésus a été crucifié, puisque ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous. Et ils ont appelé sur eux-mêmes la malédiction. Alors le deuxième point, c'est la stratégie de Rebecca au verset 9. Versets 9 et 10. La stratégie de Rebecca. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Voilà, le plan, il est assez simple. Il suffit de se faire passer pour Ésaü. Donc elle agit dans le secret, elle ne se concerte pas avec son mari, elle croit que, en fait, elle va forcer les choses pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Pour elle, la fin justifie les moyens. Elle veut la bénédiction à tout prix, alors elle est prête quand même au mensonge, à la tromperie, à la dissimulation, usurpation d'identité. Tout ça, c'est contraire à ce que Dieu demande, mais elle le fait pour accomplir le plan de Dieu. Alors nous ne devons pas forcer le plan de Dieu quand les choses n'arrivent pas comme on voudrait. Nous ne devons pas faire le mal pour que le plan de Dieu s'accomplisse. On est quand même en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Romains chapitre 3, verset 8. Et pourquoi ne ferions-nous pas du mal si il en arrive du bien comme quelques-uns ? Qui nous calomnie prétendent que nous disions « La condamnation de ces gens est juste ». Ce n'est pas un discours de chrétien. On ne peut pas dire qu'en faisant le mal, eh bien, Dieu, ça va permettre au plan de Dieu de s'accomplir par ce moyen-là. Donc, elle n'écoute pas Jacob, parce que Jacob lui donne un avertissement, mais si mon père découvre la supercherie, il va me traiter de menteur. Donc, il donne un avertissement quand même. Et là, elle dit tout simplement, eh bien, la malédiction ne tombera pas sur toi, mais que la malédiction tombe sur moi à ce moment. Donc elle est vraiment aveuglée par sa stratégie, et les conséquences vont être tragiques. Ça va être quoi ? Premièrement, la haine d'Ésaü envers Jacob, qui va être violente. Du coup, Jacob va devoir fuir de sa maison, parce que son frère voulait le tuer quand même. Ça a été assez grave. Genèse 27, 44, c'est dit que elle lui conseille de partir quelques jours. Alors c'est traduit, c'est un séjour, mais en réalité en hébreu, c'est... Elle pensait que ça allait durer quelques jours et puis que la paix allait revenir. En réalité, elle va faire partir Jacob loin et elle ne le reverra plus parce qu'il reviendra plus de 20 ans après. Mais entre-temps, elle sera morte. Donc en fait, tout ce qu'elle a fait comme plan... Ça va tout se retourner contre elle. et la situation va être pire que mieux. Elle pense avoir maîtrisé les événements, mais en réalité, on ne maîtrise rien. C'est Dieu qui dirige tout, c'est Dieu qui maîtrise tout, et on ne peut pas forcer les choses. Si vous pensez maîtriser les événements, vous vous trompez. Il n'y a que Dieu qui maîtrise les événements. Certains se sont estimés très confiants du temps de l'apôtre Paul. Ils ont dit, ils se croyaient maîtres de leur destin. Vous voyez, c'est dans Actes 27-13, alors que Paul avait dit, non, ne partez pas, je pressens qu'il va y avoir une tempête. Un léger vent vient du sud, vint à souffler. Se croyant maîtres de leur destin, ça c'est les hommes, ils se croyaient maîtres. Ils avaient leur projet. Eh bien, ils vont forcer les choses et ils vont vouloir l'accomplir. Se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent près des résultats. Ils vont poursuivre, se croyant maîtres de leur destin. Une tempête va survenir. Ils vont perdre toute la cargaison, c'est-à-dire des milliers d'euros. Ils vont tout perdre pour sauver leur vie. Et ils vont perdre aussi le bateau qui va couler. Et ils vont se raccrocher à des bouts de bois qui restaient pour sauver leur vie. Donc, se croyant maîtres de leur destin, ils ont forcé les choses pour aller dans la direction qu'ils voulaient. Et tout s'est retourné contre eux. C'est un peu ce que va vivre Rebecca ici. En forçant le bras de Dieu, elle se retrouve dans une situation terrible. Alors, on arrive à la troisième partie. C'est maintenant les mensonges de Jacob, parce que lui, il va rentrer aussi dans le plan de sa mère. Sa mère lui demande de mentir, alors il va le faire. C'est au verset 19 et 20. Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu as déjà trouvé mon fils ?» Évidemment, Isaac est étonné que Ésaü soit déjà revenu, mais ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob qui est déguisé. « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé mon fils ? Il a déjà trouvé du gibier. » Et Jacob répondit, et c'est là où on voit qu'il est vraiment rentré dans le plan de sa mère, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Il parle du gibier. « Il a fait venir le gibier devant moi et il est en train de mentir avec une facilité déconcertante. » Jacob ment. Pourtant, il y a des avertissements dans la parole. Proverbe 21-28, « Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. » Et on sait que le diable est menteur et père du mensonge. Et quand on commence à mentir, on se fait l'associé du diable. Le diable facilite le péché, il ouvre tout grand les portes. Et le mensonge fonctionne bien en plus. Ça fonctionne bien, c'est-à-dire que le père, il y croit. Jacob ment facilement. Il arrive à faire passer la chose. Tout se combine dans le bon sens. Et en fait, c'est là où il y a un piège, c'est que les mensonges vont permettre que des portes s'ouvrent, mais ce n'est pas les bonnes portes. Et le diable vous attire dans la mauvaise direction. C'est comme le diable, il a tenté Jésus, il a présenté les richesses de ce monde, les royaumes de cette terre. Si tu prosternes, tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Il ouvre le grand. Le diable, il ouvre toujours les grandes les portes de la gloire, mais c'est pour mieux piéger. Évidemment, Jésus n'est pas tombé dans cette grande porte ouverte qui était la porte du péché. Alors certains chrétiens se sont perdus en voyant les portes ouvertes par des mensonges, par des tromperies, par des manipulations. Les portes se sont ouvertes, mais ce n'étaient pas les portes de Dieu, c'était les portes du malin. Portes du malin qui s'ouvrent. Les portes du péché qui conduisent à la désobéissance, qui conduisent à s'opposer à Dieu, à être rebelle. Jacob ment d'ailleurs à deux reprises. Il dit qu'il est Ésaü, alors que c'est faux. Et ensuite, il mêle même le nom de Dieu dans son mensonge. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Il dit, mais c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir ce gibier devant moi. C'est-à-dire que ce croyant, il est aveuglé par la situation parce qu'il est capable de mêler Dieu dans son propre mensonge. Vous voyez que le péché vous entraîne au péché, parce qu'un mensonge, déjà, il dit qu'il est Ésaü, et ce n'est pas vrai, mais ce premier mensonge en amène un deuxième, et dans ce deuxième mensonge, Il associe même son Dieu dans son mensonge. Alors quand vous mentez, vous êtes en train de vous enliser dans les sables mouvants du péché. Et en fait, plus il avance, plus il ment et il s'enfonce dans le péché. Jacob n'hésite pas donc à mentionner le nom de Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le péché vous donne aucune limite. Vous n'avez même plus la conscience que ce que vous faites est mal. Le péché vous donnera même de la répartie. On a un même exemple avec Géasi qui a menti pareillement. C'était un croyant aussi. C'était le serviteur d'Élisée. Géasi qui a trompé Naaman en mentant, encore une fois, toujours le mensonge, en disant que son maître Élisée a reçu des fils des prophètes, qu'il fallait des tuniques pour eux, qu'il fallait de l'argent. Mais il invente une histoire et il a des idées, il a de l'imagination. La Bible dit qu'il courait derrière le char. Il a de l'énergie. Il ment. Il a la force de ramener les talents d'or et d'argent jusqu'ici. C'était au moins 50 kilos, ça pesait. Quelque chose d'énorme. Et donc, Géasi, pour le péché, il a des idées, il a de l'énergie, il a de la force. Le péché l'entraîne dans la mauvaise direction. Le mensonge semble bien fonctionner pour Jacob, puisque finalement, résultat des courses, il obtient la bénédiction, et c'était pour cela qu'il était venu. Est-ce que ce n'était pas le plus important? Bon, ben voilà, pour lui, la fin justifie les moyens. L'important, c'est d'avoir la bénédiction. Mais les conséquences vont être tragiques, puisque, on l'a dit, Ésaü va vouloir tuer son frère. Et Jacob, par la suite, le trompeur, sera lui-même trompé par Laban, quand on connaît la suite du récit. Et sa famille va connaître de nombreux conflits. Donc le problème de Jacob, c'est d'avoir été impatient avec Rebecca. Ils ont voulu forcer le bras de Dieu. Ils ont agi par des moyens qui étaient condamnables pour que ce que Dieu a prévu s'accomplisse. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le plan de Dieu s'accomplit dans le temps de Dieu. Il y a un temps de Dieu qui est marqué et que nous, qui sommes chrétiens, on ne peut pas forcer Dieu à agir plus vite ou à la manière dont nous aimerions qu'il agisse. Si on veut forcer le bras de Dieu, nous allons nous égarer. Nous allons faire fausse route. Et un petit peu comme Rebecca et comme Jacob, nous allons prendre des chemins qui ne sont pas les bons. Même si on arrive à quelque chose, finalement, ce n'était pas le moyen d'y arriver et ça va se retourner contre nous. Alors, le quatrième point, c'est maintenant les remords d'Ésaü dans le verset 34, donc Genèse 27, verset 34. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Ah, voilà, Ésaü arrive trop tard. Jacob a déjà volé la bénédiction. Il arrive pourtant avec le gibier. Même si Isaac comprend la supercherie, il dit, « Mais c'est trop tard, mon fils, j'ai donné la bénédiction à Ésaü. » La bénédiction était irrévocable, et malgré tous ses efforts, ben, même Isaac, même s'il voulait, il n'a pas pu. Il n'a pas pu bénir Ésaü pleinement, comme il l'avait espéré. Et c'est là où on voit qu'Ésaü se place en victime, c'est au verset 36, Genèse 27, verset 36. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, ça c'est la première fois, et voici, maintenant qu'il vient m'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» Ici, il y a un petit jeu de mots qui ne ressort pas en français, mais dans le texte original, la langue hébreu, c'est le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça se dit « Bekora » et la bénédiction, c'est « Baraka ». Et il fait résonner ces deux termes. Ésaü pensait, à tort, pouvoir séparer les deux. C'est-à-dire, il avait vendu son droit d'aînesse, mais il pensait quand même garder la deuxième partie, la bénédiction. Il n'avait pas compris que les deux, en fait, ils étaient intimement liés et qu'on ne peut pas mépriser les choses de Dieu et vouloir la bénédiction de Dieu. Il y a un moment donné, il faut être cohérent Et soit on suit le Seigneur pleinement, mais on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Et le problème d'Ésaü, c'est qu'il pensait qu'on pouvait mépriser certains aspects du spirituel tout en conservant la pleine bénédiction de Dieu. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les deux sont liés. Quand il a renoncé au droit d'aînesse, il n'avait pas réalisé ce jour-là où il avait faim et il a demandé à son frère, « Moi j'ai faim, donne-moi de ton potage. » Et c'est là où Jacob lui a dit, « Si tu me vends ton droit d'aînesse, je te le donne. » Il n'avait pas compris que ce droit d'aînesse était lié à la bénédiction spirituelle. Alors il a poussé des cris, il a versé des larmes, mais ici c'est de l'amertume. Ce n'est pas de la repentance, ce n'est pas qu'il revient à Dieu pour changer. Mais si vous lisez le texte, il dit qu'il poussa des cris pleins d'amertume. Il a de la haine dans son cœur, du remords. Il sait qu'il a mal agi, il s'en veut, mais il ne se repent pas. Il espérait une bénédiction. Alors, il a eu quand même, en Genèse 27, verset 39, son père a quand même prié pour lui. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de l'épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Alors, ce n'est pas une bénédiction comme il aurait espéré, mais voilà, il y a eu une prière pour lui. Et effectivement, Ésaü est devenu le père d'un peuple qu'on appelle les Édomites. Et les Édomites, de Édom, qui vient de Édom, ça veut dire roux, parce que Ésaü était roux, eh bien, les Édomites ont été des ennemis du peuple de Dieu, tout le temps. Et on les retrouve jusqu'à l'époque de Jésus, parce qu'ils ont changé de nom, les Édomites, c'est devenu les Iduméens. Et on retrouve dans le Nouveau Testament, dans la dynastie des rois Hérode, si vous vous rappelez du temps de la naissance de Jésus, il y avait un roi Hérode, ben, ils étaient en fait des descendants des Iduméens, c'est-à-dire des Édomites, parce qu'ils ont été, environ en 129 avant Jésus-Christ, incorporés au peuple de Dieu. Et finalement, le fait d'avoir incorporé au peuple de Dieu les descendants d'Ésaü, Édomites ou Iduméens dans le Nouveau Testament, bien ça a porté la malédiction sur le peuple de Dieu, parce que peu de temps après la mort de Jésus et sa résurrection, alors que les Iduméens régnaient, ils étaient à la tête du pays, c'est là que les Romains ont pillé la ville et ont dispersé le peuple. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Le peuple a été dispersé de son pays et n'a pas pu revenir jusqu'en 1948. Donc, il y a eu 2000 ans de dispersion. Vous voyez, le fait d'avoir incorporé les descendants d'Ésaü dans le peuple d'Israël, ça a été un sujet de malédiction pour le peuple juif. Donc, en conclusion, on voit ici Rebecca et Jacob qui, bien que croyants, ont fait preuve d'impatience. Ils avaient des promesses, ils voulaient que le plan de Dieu s'accomplisse et ils ont voulu forcer le bras de Dieu et, par des stratagèmes, faire aller plus vite ce que Dieu avait décidé. Alors, par contre, sur les moyens, vous voyez, ils ne font pas dans la dentelle, les mensonges, la tromperie, la dissimulation. Et là, on voit que ce n'est pas la méthode que Dieu veut. C'est vrai que Dieu nous laisse libres et responsables, mais que nous devons veiller à ne pas pécher. Et il y a un avertissement pour nous, parce que si le chrétien ne veille pas, s'il ne prie pas, s'il ne se tient pas devant Dieu, il va chercher à forcer les choses, à faire sa volonté plus que la volonté de Dieu. Il ne va pas être patient. Alors, il ne manquera pas de pécher et de se retrouver dans des chemins qui sont beaucoup plus compliqués. Parce que tout en voulant faire arriver la volonté de Dieu, il va le faire de la mauvaise méthode, un petit peu comme Rebecca et Jacob. Alors, au contraire,
Le chrétien qui aime Dieu, qui aime la prière, qui est spirituelle, il va s'attendre au temps de Dieu et à l'intervention de Dieu et prier pour que Dieu conduise toutes choses. Et c'est la prière qui doit être la nôtre, c'est de demander au Seigneur, oui, ta promesse est là, eh bien Seigneur, manifeste-la par ta puissance, par ta manière à toi. Et nous voulons entrer, nous, dans tes plans, dans ta volonté. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ces éclairages encore qui nous montrent ton chemin qui est différent du nôtre, ta volonté qui est toujours parfaite et qui nous montre aussi que nos méthodes ne sont pas les mieux adaptées ou les meilleures pour faire ce que toi tu désires. Nous te prions, Seigneur, afin d'être des hommes et des femmes de prière qui sont remplis du Saint-Esprit et qui écoutent tes directives, et nous voulons être sensibles à ce temps divin, à ton intervention, et toi-même tu mets les choses en place, et toi-même tu suscites les bonnes personnes, toi-même tu fais lever les personnes qu'il faut, tu les mets aux endroits qu'il faut, et nous voulons être à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, montre-nous comment avancer sur le chemin où nous sommes, et si nous nous sommes trompés, ou si nous avons voulu forcer les choses, comme Rebecca et Jacob, oh, permets-nous de retrouver le bon chemin, Seigneur, et de ne pas persévérer dans une mauvaise direction ou dans une voie qui n'est pas celle que tu veux. Mais Seigneur, que toujours nous soyons conduits par toi en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen.